Mesdames, messieurs, nous allons pouvoir recommencer avec un petit retard qui est somme toute excusable, un quart d'heure. Chez les Allemands, c'est de coutume. Nous allons continuer avec Ahmet İnsel, qui est au pupitre, qui va nous parler de l'erdoganisme, de la politique, l'idéologie, le populisme de Recep Tayyip Erdogan, leader, n'est-ce pas, de la Turquie depuis 2002. Je vous rappelle que nous avons bénéficier d'une vision extrêmement concrète des raisons pour lesquelles l'Europe a tout à fait raison de ne pas accepter la Turquie dans l'Union européenne, avec aussi des remarques sur certains aspects qui devraient quand même être pris en considération. C'était en quelque sorte un contre-équilibre, quelque chose qui permettait d'équilibrer le côté un peu plus historique et idéologique et affectif que moi-même en tant qu'historien et que Nilüfer Gölay en tant que sociologue avions abordé en parlant des deux siècles et en parlant de Sainte-Sophie. Là, nous avons eu du concret avec des graphiques à l'appui qui expliquaient que franchement rien n'allait bien en Turquie en ce moment et que par conséquent le problème était non seulement idéologique mais aussi structurel, qu'il s'agissait de problèmes économiques, financiers, extrêmement concrets, qui empêchaient en quelque sorte l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Mais vous vous souviendrez aussi que derrière ces problèmes concrets se situait une volonté politique qui elle-même était extrêmement problématique. Un exemple concret qui a été cité par le professeur Gürsel, c'est cette lubie d'Erdogan à croire que qu'en baissant les taux d'intérêt, on arriverait à baisser l'inflation. Bon, un contresens économique, ce qui vous donne une idée de comment, encore une fois, l'irrationnel, alors c'est pas je t'aime moi non plus, mais c'est vraiment l'irrationnel avec ses gros sabots qui traverse les décisions rationnelles et qui empêche en quelque sorte le développement d'une relation saine entre la Turquie et l'Europe, et au-delà des relations de la Turquie avec l'Europe, qui grève sérieusement l'économie turque, causant cette inflation galopante que nous avons observée depuis quelques années. Je pense que, par conséquent, la transition est tout à fait naturelle de ce sujet économique à sous-tendu de politique à une discussion du politique avec une focalisation sur, justement, la politique, l'idéologie qui détermine la manière dont la Turquie est gérée, dirigée depuis 2002 et en particulier depuis, disons, les années 2010, lorsque tout d'un coup tout a commencé à chavirer et que les relations qui étaient somme toute assez bonnes jusque-là se retrouvent dans une situation désastreuse et que nous parlons vraiment de désamour, je recite Nilüfer Gölay, voire même de conflits plus ou moins ouverts entre l'Europe et la Turquie et entre l'Occident et la Turquie. Parce que ce qui est frappant, c'est que je n'aime pas trop, enfin, j'ai tort de dire ça parce que ça fait partie du titre de mon cours, mais je n'aime pas trop utiliser le terme d'Occident parce qu'il est grevé par toutes sortes de connotations extrêmement anciennes et très lourdes, difficiles à porter. Mais en ce moment, vu de la Turquie, il y a un problème de l'Occident, il y a une perception de l'Occident comme étant désormais un adversaire, un ennemi, et un ennemi qui en plus est historiquement responsable de tous les maux de la Turquie dans son sens le plus large, avec l'Empire ottoman comme son prélude entre guillemets. Donc voilà, je ne vais pas abuser de mon temps, je vais passer la parole à Ahmet İnsel, je vous rappelle, politologue, universitaire, mais aussi éditeur, donc très actif dans le domaine public, dans l'édition, dans la défense des droits en Turquie, et qui va nous parler donc du problème Erdogan, si vous voulez, de l'erdoganisme comme étant une idéologie anti-occidentale à relent islamo-nationaliste.
Merci Adam. Je voudrais tout de suite commencer par une remarque que Etam Eldam vient de prononcer. D'abord, je remercie Collège de France et particulièrement Etam Eldam d'avoir organisé cette journée qui permet d'échanger entre nous et avec vous sur les questions actuelles. On n'arrivait plus ces derniers temps à se rencontrer. C'était une très, très bonne occasion pour nous aussi de se retrouver autour d'une table de discussion. Etam Eldam disait que jusqu'aux années 2010, ça allait à peu près bien, oui, à peu près bien, dans le cadre d'un gouvernement culturellement conservateur, économiquement libéral et politiquement démocrate conservateur. Ça allait à peu près, on avait l'habitude en Turquie, on en avait vu d'autres auparavant. C'est le basculement se fait effectivement progressivement, sûrement. Il n'y a pas une date J qui peut nous expliquer le moment du basculement de cette démocratie conservatrice vers un autoritarisme qui se transforme en une autocratie comme aujourd'hui. Mais je vais vous rappeler un peu la perception, pas simplement du côté de la Turquie, mais la perception en Europe de Tayyip Erdogan en 2010, 2011. C'est le leader d'AKP à l'époque, il est Premier ministre, et en 2011, le magazine Time, en 2011, avait sélectionné Recep Tayyip Erdogan parmi les leaders, les candidats à l'élection de Person of the Year. In fine, il n'a pas été élu, mais il a été sélectionné parmi les personnalités de l'année 2011. Et c'est surtout l'argumentaire fait par le rédacteur de Time Magazine qui est intéressant, rétroactivement. Ils disent « Pourquoi Tayyip Erdogan ?» Ils justifient leur choix dans ces termes. Réélu pour un troisième mandat en 2011, il vient d'être réélu haut la main avec 49% des voix, son parti, ce qui n'était encore jamais arrivé, après avoir hissé la croissance économique de la Turquie au deuxième rang mondial derrière la Chine, c'est juste après la crise économique de 2008, la Turquie est en grande reprise économique pour une année ou deux, il fait figure de modèle pour les islamistes qui montent en puissance à la suite de la chute des dictatures en Égypte et en Tunisie, pays où il recommande des régimes démocratiques non religieux. On voit bien que, juste à ce moment-là, l'approche des Occidentaux ou de l'Union européenne et des États-Unis, ce n'est pas simplement l'Union européenne, vis-à-vis de Tayyip Erdogan, c'est... Voilà, il y a un modèle pour les pays musulmans du Moyen-Orient qui sont en train de renverser leur dictateur et la Turquie va devenir un peu le modèle de l'islam modéré démocrate pour ces pays. Donc, il continue l'hebdomadaire libéral. Il dit « Erdogan, allié clé des États-Unis avec un engagement fort envers l'OTAN ». À l'époque, je pense qu'aujourd'hui, il le dirait de l'inverse, allait jouer un rôle de plus en plus prépondérant donc dans la région au cours des années à venir, dit-il, dans le contexte de la rébellion arabe, du retrait américain de l'Irak et de la tension internationale croissante à l'égard de l'Iran. Donc, 10 ans après, aujourd'hui, ou il y a 2 ans, à peu près depuis 2 ans, 10 ans après, Erdogan est cité par la même presse, Times Magazine, mais en même temps d'autres, françaises ou britanniques, est cité par la même presse, à côté de Poutine et de Xi Jinping, comme le troisième cavalier de l'apocalypse autocratique, ou comme un nouveau sultan. Les observateurs ajoutent aussi de temps en temps Trump, avant les élections dernières américaines, dans ces apocalypses autocratiques. Et effectivement, Erdogan a quelque part confirmé la prévision du Times aussi, du Time Magazine aussi, quant à la place de plus en plus grande que la Turquie et Tayyip Erdogan jouent sur la scène proche-orientale, mais non pas en utilisant, comme on pensait à l'époque, un soft power, mais en exerçant la force la plus brutale et une diplomatie de chantage, et surtout en utilisant le vide de leadership qui est créé dans la région, non seulement par le retrait américain, mais aussi par l'absence totale de politique extérieure de l'Union européenne en général et particulièrement pour la région. Donc du coup, il a un peu été absorbé par ce vide de leadership, mais en même temps, il s'est projeté comme une puissance régionale qui dépasse un peu ses moyens réels d'assurer la permanence ou la stabilité de son assise. Aujourd'hui, il est montré du doigt comme l'exemple même de ces hommes forts qui montent à travers les différents continents et qui font partie de ce qu'on appelle le club des brutes. Alors, ce changement de spectaculaire de l'appréciation de la personnalité d'Erdogan, en moins de 10 ans, me paraît un peu excessif. Il était excessif en 2010, les louanges qui ont été prononcées à Erdogan. Je pense qu'il est aussi excessif de mettre Erdogan au même niveau que Poutine et Xi Jinping, vu la taille de la Turquie et la puissance de la Turquie. Je pense que c'est plutôt un effet de journalisme plus que d'analyse politique établie. Mais par contre, je pense qu'il est quand même important que d'analyser Tayyip Erdogan dans un mouvement mondial de ce que nous appelons les nouveaux autoritarismes et que nous avons d'autres Tayyip Erdogan ailleurs avec des différentes modalités, évidemment, comme Viktor Orban, par exemple, et que ces nouveaux autoritaires comme Viktor Orban ou Tayyip Erdogan sont des dirigeants politiques qui arrivent au pouvoir d'une manière conforme aux règles électorales démocratiques. Xi Jinping est bien différent de ce point de vue-là. Ils arrivent au pouvoir d'une manière bien conforme aux règles électorales démocratiques, en vigueur dans leur pays, évidemment, maintiennent les élections qui, au fil du temps, exercent le pouvoir dans des conditions de moins en moins démocratiques, mais maintiennent des élections pluralistes qui sont plutôt libres comme élections, participation est plutôt libre. Tayyip Erdogan n'a pas fait ce qu'a fait Poutine à interdire la totalité de ses opposants à se présenter aux élections. Bon, mais en revanche, évidemment, les élections ne se font pas dans des conditions faire, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des conditions honnêtes, égaux et justes. Il y a une dérive autoritaire, c'est exactement comme Viktor Orban, il y a une dérive autoritaire en fonction de la particularité du pays et de la capacité de résistance des institutions démocratiques et de la modalité d'insertion internationale de ce pays. Viktor Orban, évidemment, est beaucoup plus contraint à respecter un minimum des règles démocratiques, membre de l'Union européenne, ce que n'a pas à supporter Tayyip Erdogan de son côté. Alors, donc, il oscille entre un autoritarisme et une autocratie, et le passage de cet autoritarisme à autocratie vers une vraie dictature, à la manière du Xi Jinping en Chine, par exemple, ou dans d'autres dictatures qui existent, c'est la suppression des élections pluralistes et la disparition de toute possibilité d'alternance. Ça, c'est le passage de Rubicon, cette décision qui sera pas prise, qui n'est pas encore prise en Turquie, mais qui peut un jour arriver, et c'est ça, à la fin, on discutera de cette éventualité. C'est cette disparition de toute possibilité d'alternance par la voie démocratique, électorale et pacifique, constitue donc le Rubicon à franchir pour entrer dans la catégorie de la dictature ouverte. Durant la campagne électorale, sûrement en Turquie, les élections se déroulent dans des conditions très inégales, au profit des partis au pouvoir. Les recours sont verrouillés et la soumission du système juridique au pouvoir, évidemment, permet au pouvoir de pouvoir totalement inverser ou jouer sur décréter certains résultats. Mais en même temps, cela n'empêche pas ces régimes de connaître des défaites électorales. Aussi bien la Hongrie que la Turquie, récemment, en 2019 en Turquie, 2020 en Hongrie, les principaux pays, les principales villes du pays sont passées dans les mains de l'opposition. En Istanbul, Ankara, sur 7 villes, sur 10 villes les plus grandes de la Turquie, 7 aujourd'hui ont des maires d'opposition. La même chose un peu pour la Hongrie, c'est quelque chose qui est inimaginable en revanche pour la Russie. Donc ce qui fait aussi la différence avec le poutinisme et peut-être ce nouveau autoritarisme que représente Tayyip Erdogan. Donc ce nouvel autoritarisme se manifeste comment ? Se manifeste par la mise en place, par à-coup, d'un régime hypercentralisé, dans la main d'une seule personne, d'où j'utilise le terme autocratie, le pouvoir de l'un. Et profitant des moments de turbulence comme la tentative de coup d'État de 2016, par exemple, je passe sur la question de qui a fait le coup d'État, etc., ce coup d'État permet à Tayyip Erdogan de réorganiser, de mettre en place un contre-coup d'État, d'une certaine manière, et habile tacticien, il saisit l'occasion de cette suspension de l'État de droit pour transformer le régime en un régime hyper-présidentiel, ou on dit en sciences politiques présidentialiste, et en même temps lui permet de mettre en place une dynamique de transformer l'État en un parti-État, un parti AKP. Le parti en question perd son caractère de parti politique, devient une machine totalement au service des desseins de Tayyip Erdogan et de son clique, perd totalement la dimension au sens propre du temps du parti politique, mais devient une fusion entre le parti et l'État. Le parti-État est en place avec, à sa tête, une hiérarchie très verticale, presque la verticale de Poutine est totalement mise en place en Turquie d'une certaine manière, avec à sa tête Tayyip Erdogan, qui, à partir de 2018, devient président de la République, premier ministre, président du parti majoritaire au Parlement, donc du coup contrôlant totalement le Parlement, président, chef des forces armées, chef direct de la police via son cabinet, et en même temps, évidemment, capable de nommer la quasi-totalité des membres de la haute juridiction, Conseil d'État, Cour de cassation et Conseil constitutionnel. Et donc, du coup, la suppression de ce qu'on peut appeler la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. C'est le schéma d'une unicité du pouvoir telle qu'on pouvait discuter dans les années au XIXe siècle, unicité du pouvoir au sens propre du terme, qu'on peut rencontrer dans certains régimes qui sont des régimes de dictature de parti unique. Mais à la différence des dictatures de parti unique, la plupart du temps, c'est le parti qui contrôle l'État. Ici, ce n'est pas le parti qui contrôle l'État, c'est Tayyip Erdogan qui contrôle le parti et l'État. Le parti n'a pas d'autonomie, c'est que Tayyip Erdogan n'est pas un égo parmi les égaux dans un bureau politique à la manière du Parti communiste. Il est l'unique chef et il n'y a pas le deuxième ou troisième homme. Alors, cet autoritarisme, ce n'est pas nouveau. Et je dirais même, c'est à partir de 2010-2011, nous vivons un retour de l'autoritarisme. Un retour de l'autoritarisme qu'il faut distinguer avec l'autoritarisme traditionnel, institutionnel, ancré dans la République depuis sa fondation. Cet autoritarisme traditionnel, donc du coup, il y a une... Pour comprendre comment le glissement fut possible vers cette autocratie, je pense qu'il est indispensable que d'abord que nous comprenions, en tout cas que nous interrogions sur le fondement, sur les racines structurelles, systémiques de l'autoritarisme en Turquie. Je ne parle pas de l'Empire ottoman, mais de l'autoritarisme en Turquie depuis la République, depuis sa fondation. Il y a un autoritarisme permanent, mais cet autoritarisme traditionnel en Turquie, cet autoritarisme était moderniste, était autoritaire, était élitiste, moderniste, et c'était un autoritarisme par le haut. C'est un autoritarisme d'un groupe minoritaire qui imposait au pays des changements structurels qui nous paraissent sympathiques, proches, etc., mais néanmoins des changements structurels imposés par un coup de poing, par un coup de force, et non pas par une négociation sociale ou par une dynamique sociale porteuse. Et cet autoritarisme était très, très méfiant des dynamiques sociales autonomes de toute façon, y compris même son parti, le parti unique, le Parti républicain du peuple, n'a jamais été un parti de masse, parce qu'un parti de masse, c'est toujours un risque que s'autonomise, la société s'autonomise par rapport à l'État. Le Parti républicain turc était toujours un parti très élitaire, même quand il était parti unique. Donc, méfiant envers les mouvements sociaux, cet autoritarisme, à certains moments, est devenu un autoritarisme violent. Je ne parle pas simplement du temps du parti unique, mais ça a justifié des coups d'État, 1960, 1980. Ça a laissé, notamment en 1980, ça a laissé dans les institutions de la République des fondements, des institutions sur lesquelles Tayyip Erdogan va surfer avec immensément de facilité pour transformer, pour glisser l'État autoritaire, moderniste, laïque, nationaliste, vers un État de plus en plus autocratique. Avec Erdogan, ce qui a changé, c'est que l'autoritarisme par le haut qui avait institué ces dynamiques autoritaires dans les institutions, mais qui n'était pas populaire. Il ne gagnait jamais les élections, cet autoritarisme qu'on appelle kémaliste, moderniste, élitiste, peu importe, ne gagnait jamais les élections libres. Le meilleur résultat qu'a pu obtenir le Parti républicain du peuple, c'est avec Ecevit en 1977, 42% des voix. C'est l'unique exception, quasiment, je dirais. Cet autoritarisme n'était pas populaire, n'avait pas une base sociale majoritaire. Or, avec Tayyip Erdogan, l'autoritarisme par le haut, qui est l'autoritarisme traditionnel, institutionnel, systémique de la Turquie, du XXe siècle, a été renforcé par un autoritarisme par le bas qui est en harmonie avec l'autoritarisme par le haut, hein, une sorte de le couvercle qui retrouve la marmite et que, en même temps, évidemment, qui devient redoutable parce que cet autoritarisme par le haut, renforcé par l'autoritarisme par le bas qui vient de la société sunnite turque conservateur, devient évidemment dans une logique populiste, électoraliste, et qui devient, du coup, durable avec les élections. Du coup, nous avons un régime qu'on appelle un régime d'autoritarisme électif. Hein, ce n'est pas une dictature, au sens propre du terme, mais c'est un autoritarisme électif, et c'est un peu la particularité des nouveaux autoritarismes qu'on rencontre dans beaucoup de pays, de plus en plus de pays, malheureusement, à travers le monde. Alors, en ce qui concerne ce nouvel autoritarisme, je fais quelques rappels. Par exemple, après avoir dirigé le pays comme Premier ministre pendant 11 ans, Tayyip Erdogan, avec une confortable majorité parlementaire, Tayyip Erdogan est élu président de la République par le suffrage universel, ce qui est une première dans l'histoire de la République. Jusqu'en 2014, les présidents de la République étaient élus par le Parlement avec un système d'élection sur 2 ou 3, 4 tours, et tous étaient élus donc par une majorité parlementaire. Or, là, le président de la République acquiert une légitimité nouvelle, qui est la légitimité du suffrage universel, ce que la France a subi aussi à partir de 1962. Cette légitimité du suffrage universel acquise pour le président de la République, mais la Constitution ne permet pas, ce n'est pas la Constitution d'un régime présidentiel, Tayyip Erdogan va décréter qu'à partir du moment où il est élu par le suffrage universel, le régime est devenu de fait présidentiel. Non pas de droit, mais de fait présidentiel. Et ce terme de fait présidentiel va expliquer beaucoup de choses qui vont venir advenir par la suite. Cette légitimité acquise par les urnes et qui, de fait présidentielle, à partir de 2017, avec le changement constitutionnel qui est voté, les amendements constitutionnels qui ont voté avec très peu d'écart en faveur du oui, avec même un peu quelques manipulations lors de procédure de vote, va transformer ce régime présidentiel de fait en régime présidentiel de droit. Et à partir de 2018, quand Tayyip Erdogan est élu, ça va se mettre en place un régime qui est devenu hyper-présidentiel ou présidentialiste. Cette présidentialisation va de pair avec trois choses qui me semblent extrêmement importantes. Tout à l'heure, au repas, on en a un peu discuté. C'est, d'une part, une logique de désinstitutionnalisation du régime. Tayyip Erdogan et son clic désinstitutionnalisent, c'est-à-dire que les institutions sont vidées de leur histoire, de leur tradition, et deviennent des boîtes vides, totalement soumises aux besoins à court terme, au jour le jour, du pouvoir en termes politiques. On peut prendre les institutions universitaires, on peut prendre les institutions de statistique nationale, on peut prendre les institutions juridiques, toutes les institutions se désinstitutionnalisent. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxièmement, c'est un pouvoir qui déréglemente ou dérégule, c'est-à-dire les règles ne sont pas inscrites dans la durée. Les règles sont chaque fois avec un décret constitutionnel, les règles qui ont été instaurées, décrétées par le président, peuvent changer directement. Les lois, donc cette déréglementation ou dérégulation est évidemment quelque chose qui permet au pouvoir de gérer au jour le jour comme il veut, mais en même temps avec évidemment sans prévisibilité, par les acteurs économiques et politiques, sans prévisibilité de moyen terme, les affaires économiques et politiques. Et troisièmement, c'est aussi une logique de délégalisation et déconstitutionnalisation. Cette déconstitutionnalisation, c'est le fait que la Constitution même peut ne pas être appliquée. La hiérarchie des normes qui est très importante dans un régime d'état de droit, c'est-à-dire la Constitution, le Conseil constitutionnel constitue la supériorité hiérarchique et après les tribunaux prennent leur légitimité d'une manière hiérarchique en descendant. Non, un tribunal pénal peut décréter, avec l'appui de Tayyip Erdogan, que la décision du Conseil constitutionnel n'est pas valable. Ça, c'est la déconstitutionnalisation, ça, c'est délégalisation. De plus en plus de lois apparaissent sur le terrain, mais nous savons par des amis qui sont encore restés dans la bureaucratie, ces lois sont en fait vidées de leur contexte par une avalanche de règlements et par une avalanche de... Il y a règlement et un autre terme que je ne connais pas en français, c'est... oui, règlements, disons, en général, par une avalanche de règlements dont une partie sont secrets, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas connaître, qui dénaturent totalement les lois pour appliquer à leur manière. Ça, on rencontre ça sur la gestion de la migration, on rencontre ça sur la gestion des affaires de santé, on rencontre énormément de secteurs où les lois apparaissent, existent, qui sont plutôt conformes aux règles européennes, mais de fait, l'application est totalement dénaturée par des règlements ou par des ordres venant de la présidence de la République. Ça rappelle un peu la situation que Ernst Frankel analyse en 1941, un juriste allemand qui a fui l'Allemagne en 1938, membre de la Cour de cassation allemande, qui analyse le régime hitlérien à travers le concept de État dual. C'est-à-dire, nous sommes devant deux face de l'État. Il y a une face légaliste de l'État qui fonctionne. Hein, les tribunaux pour les affaires familiales fonctionnent parfaitement normalement. Là, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, les tribunaux pénaux, par exemple, peuvent fonctionner tout à fait normalement. Mais un jour, ça peut totalement changer. Ou bien la même administration peut avoir une décision tout à fait conforme aux normes juridiques en vigueur et le lendemain peut prendre une décision totalement différente qui provient des besoins du pouvoir. En matière pénale, par exemple, en Turquie, nous sommes totalement devant cette situation. Les tribunaux pénaux peuvent prendre des sanctions tout à fait légales, officiellement reconnues qui s'appuient sur les lois existantes, ou inventer totalement des procédures qui n'existent pas, des procédures pénales qui n'existent pas, tout simplement par une décision qui provient du palais présidentiel. Donc, nous sommes dans un système qui s'appelle système de gouvernement de la présidence de la République. Son nom déjà indique le caractère totalement ad hoc du régime, système de gouvernement de la présidence de la République, c'est un euphémisme pour désigner un régime taillé sur mesure pour donner les pleins pouvoirs à Tayyip Erdogan en tant qu'autocrate élu. Donc, l'erdoganisme, c'est les caractéristiques saillantes de l'erdoganisme, c'est le règne de l'arbitraire, l'imprévisibilité dans le domaine économique comme dans le domaine politique. Les lois, les règlements, toutes les règles du jeu en général peuvent changer et par simple décret présidentiel ou par simple prise de position présidentielle au gré des nécessités du pouvoir ou au gré des perceptions du pouvoir, comme en économie, par exemple, comme Stephen Gürsel a présenté. C'est une perception très subjective du pouvoir qui est un peu sur la question du taux d'intérêt, ce n'est pas simplement une mauvaise interprétation de ces faibles connaissances en économie, mais aussi, je pense, il y a une obstination religieuse dans cette position. Vous savez que le taux d'intérêt est interdite et maudite dans l'islam. Alors, les révocations massives des fonctionnaires par simple décision administrative, sans motif officiel, sans possibilité de recours, l'incarcération des élus, des avocats, des journalistes, des universitaires, des syndicalistes ou des simples citoyens qui ont osé exprimer de manière un peu véhémente une opinion négative sur le chef de l'État ou de son entourage sont les manifestations les plus visibles des abus répressifs commis par l'appareil judiciaire en Turquie et de la disparition de toute sécurité juridique en général. Cette disparition de sécurité juridique a des conséquences économiques. Si tout à l'heure, Seyfettin Gürsel a parlé de la chute des investissements directs étrangers, en partie, ces investissements directs étrangers ne viennent pas en Turquie parce qu'ils ne retrouvent plus la sécurité juridique minimale en Turquie. La Turquie ne présente pas la sécurité juridique minimale. La nomination par le gouvernement des préfets ou des sous-préfets comme maires à la place des maires élus qui sont décisives par décision administrative du ministère de l'Intérieur, par exemple, est un autre aspect de cet arbitraire et de remise en cause de la légitimité élue, d'électorale. Sur 64 maires élus en 2019 sur les listes de Parti démocratique des peuples, HDP, 59 ont été dessaisis au jour d'aujourd'hui par la décision administrative du ministère de l'Intérieur et des administrateurs ont été nommés à leur place. Sur 59, à peu près trois quarts ont été incarcérés avec des accusations justement du terrorisme, comme on nous a rappelé ce matin. Alors, en ce qui concerne cet fonctionnement de ce nouveau régime, on peut dire très rapidement qu'elle s'appuie sur quatre dimensions. On peut le multiplier, on peut ajouter d'autres dimensions, mais pour aller vite, je mettrai quatre dimensions. Premièrement, il s'agit d'un néopatrimonialisme comme système économique. On utilise le terme de néopatrimonialisme pour expliquer la disparition de la frontière qui existe en matière économique entre espace public et espace privé. Et l'utilisation et la disparition de cette frontière nette entre espace public et espace privé, évidemment, élargit considérablement les moyens d'intervention, d'accaparement et de gestion du pouvoir public, soit en saisissant les biens, ce qui est arrivé à une partie importante des hommes d'affaires gulenistes. Il y a eu à peu près 10 milliards d'euros de biens saisis sur les hommes d'affaires accusés de gulenisme, par exemple. Là, il y a une logique de prébande, une logique de directement de mettre la main sur la richesse accumulée, ce que les majorité turque sunnite connaît très bien dans les pratiques avec le génocide arménien ou les pogroms juifs ou grecs des années 30 ou des années 50, ce qui continue maintenant avec une part des musulmans contre les musulmans. Deuxième, le néopatrimonialisme, c'est aussi une confusion entre le trésor public et les dépenses de la présidence de la République. Devient un peu un sultanisme, d'une certaine manière, si on prend le modèle décrit par Max Weber. Deuxième caractéristique, c'est une mainmise autoritaire sur le système électoral. Sans changer le système électoral, c'est une mainmise sur l'organisation des élections. On appelle ça la plupart du temps la logique du parti hégémonique. Les élections sont là, mais tout est fait pour que les résultats soit contrôlé. De ce point de vue-là, Tayyip Erdogan ou l'erdoganisme n'est pas encore totalement arrivé à ses buts. De ce point de vue-là, il n'a pas encore réussi un verrouillage total des élections. Nous avons vu en 2019 comment il a pu perdre les élections municipales. Mais on a eu une inquiétude. Pour la première fois, le pouvoir a fait pression sur les juges de la commission électorale. Tayyip Erdogan a fait pression sur les juges de la commission électorale pour que les élections que son parti avait perdues à Istanbul soient annulées dans l'espoir de pouvoir regagner les élections, ce qui lui a coûté encore plus une perte beaucoup plus importante. Nous reviendrons là-dessus sur les perspectives. Troisième dimension, c'est le populisme. Le populisme comme stratégie politique. Ce populisme comme stratégie politique complète une quatrième dimension, c'est l'islamisme comme idéologie. Et toutes ces quatre dimensions, et surtout le populisme comme stratégie politique et l'islamisme comme idéologie, évidemment, sont cimentées par le nationalisme. Le nationalisme cimente ces quatre composantes et assure leur cohésion. Il permet aussi de désarmer une partie importante de l'opposition à l'AKP, notamment sur sa politique extérieure. Le nationalisme et le dénominateur commun le plus large de la Turquie. Hein, le nationalisme, pas simplement d'AKP, mais pas simplement de l'extrême droite nationaliste, mais du parti centre-gauche, du parti CHP, du parti IYİ, du parti islamiste Refah. Sauf le parti HDP, mais peut-être on peut l'accuser à certains moments de faire du nationalisme kurde d'une certaine manière, mais c'est discutable. Mais globalement, le nationalisme constitue le fond commun de l'ensemble du système politique et de la société politique en Turquie. Et ce nationalisme permet évidemment d'avoir des soutiens sur la politique extérieure de l'AKP. Aujourd'hui, les partis d'opposition, les principaux partis d'opposition, à part HDP, ne remettent absolument pas en cause la présence militaire turque au Chypre du Nord. Au contraire, d'ailleurs, si jamais il y avait une velléité de retrait de l'armée, c'est l'opposition qui crie à la trahison. L'opposition ne remet pas en cause la présence, l'occupation militaire en Syrie. L'opposition n'a absolument pas remis en cause l'engagement militaire de la Turquie auprès de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. L'opposition est un peu critique sur la présence militaire en Libye, mais encore, hein, c'est un peu critique, mais pas plus. L'opposition soutient encore plus que l'AKP les revendications présenté par les généraux en retraite, comme quoi la mer Égée jusqu'en Crète est une mer turque. C'est la fameuse thèse de la mer patrie bleue. Alors, de ce point de vue-là, du coup, le nationalisme lui permet de mener une politique qui lui permet d'être à l'aise vis-à-vis du problème kurde. Vis-à-vis du problème kurde, toute la répression sur le problème kurde s'inscrit dans cette logique nationaliste et qui lui permet de mener une politique étatique, séculière, c'est-à-dire qui existe depuis la création de la fondement de la République de Turquie. C'est le premier problème, la peur principale de l'État turc, le problème kurde. Tayyip Erdogan le gère parfaitement avec les milieux nationalistes, avec l'État profond, avec les militaires, avec les bureaucrates civils qui ne sont pas du tout d'AKP, mais qui sont tous d'accord pour cette politique de limitation ou de refus ou de répression sur les Kurdes. La même chose pour la laïcité. Sans sortir officiellement de la laïcité constitutionnelle, qui est une laïcité à la turque, qui n'est pas du tout la laïcité à la française, contrairement à ce qu'on pense la plupart du temps, l'erdoganisme s'inscrit dans un mouvement tendanciel de retour aux racines musulmanes de la Turquie. Qu'est-ce que c'est que cette laïcité à la turque ? La laïcité à la turque, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de cette laïcité conçue par Napoléon Bonaparte qu'on est en train de fêter ou commémorer son décès il y a 200 ans. C'est plus une laïcité perçue, mise en place par Bonaparte que la laïcité mise en place par Aristide Briand en 1905. N'oublions pas que Bonaparte n'était pas contre la séparation de l'État et de la religion. Au contraire, ce qu'on appelle la stratégie concordataire de Bonaparte avec le pape, c'était le contrôle de l'Église par l'État. La fameuse phrase de Bonaparte, on l'oublie la plupart du temps, « Il faut que cette religion, catholique, majoritaire évidemment, il faut que cette religion soit dans les mains du gouvernement ». Il faut que cette religion soit dans les mains du gouvernement, était un peu l'esprit du concordat et la pression sur le pape de l'époque pour signer finalement le concordat, un peu forcé, puisqu'il était devenu un peu prisonnier de Bonaparte. On appelle cette politique, entre guillemets, laïque de Bonaparte, comme vous savez, le gallicanisme, c'est-à-dire la création d'une église nationale française sous contrôle de l'État. Mustafa Kemal met en place en 1924 exactement le même mécanisme. la mise en place d'une religion sunnite musulmane totalement sous contrôle de l'État, mais il n'a pas besoin de signer un concordat avec le pape, puisqu'il abolit le califat et il décide tout seul de cette décision. Alors, cette laïcité, qui est une laïcité ou une politique séculière, plus exactement, qui est faite en intériorisant la religion dominante dans l'État, en fonctionnalisant la religion dominante dans l'État, qui veut créer une religion sunnite musulmane turque contrôlée par l'État, permet à Tayyip Erdogan ou aux musulmans au pouvoir de inverser totalement la fonction de cette organisation administrative, de cette direction administrative, sans changer aucune loi. Aujourd'hui, les lois sur Diyanet, sur la direction des affaires religieuses, sont les mêmes que les lois qui ont été instaurées ou les pratiques qui ont été, les pratiques, je ne dirais pas, mais les lois et règlements qui ont été mis en place après le coup d'État de 1980 ou même, je dirais, jusqu'en 1924. Par contre, c'est sa disponibilité dans les mains de l'État, cette fois-ci d'une idéologie islamiste, qui fait qu'aujourd'hui, Diyanet est devenu le bras idéologique majeur du pouvoir. Autrement dit, la laïcité instaurée par Mustafa Kemal a facilité aujourd'hui à l'AKP d'instaurer une islamisation de la société sans coupure et dans une continuité constitutionnelle, dans une continuité institutionnelle parfaite, simplement en détournant l'usage qui est prévu pour le Diyanet. Aujourd'hui, Diyanet est devenu vraiment le bras séculier, donc islamiste, d'une idéologie islamiste, non pas de la mise en place de la charia, mais de l'islamisation de l'espace public. Le travail de Diyanet, ce n'est pas d'interdire obliger les femmes de porter le foulard ou d'introduire le charia, mais de dominer dans l'espace public la présence religieuse sunnite musulmane. Et avec une prolongation au niveau international. Aujourd'hui, Diyanet dispose dans plus de 90 pays, direction des affaires religieuses, dispose dans plus de 82 pays, soit un attaché, soit un conseiller des affaires religieuses. C'est quelque chose qu'on peut difficilement imaginer dans un État qui est vraiment laïque a priori. Alors, dans cette réislamisation s'effectue par la valorisation de la famille, évidemment, avec la femme dans un rôle de mère et d'épouse, par la promotion des pratiques culturelles sunnites, par le soutien aux pratiques caritatives des confréries religieuses. Et les confréries religieuses, aujourd'hui, investissent massivement dans les administrations publiques. Et il y a une lutte, d'ailleurs, entre les confréries religieuses. Fethullah Gulen et son équipe avaient fait la même chose, mais comme ils ont, à un moment donné, voulu devenir vizir à la place du vizir, ils ont perdu la guerre et ils ont été laminés. Alors, cet populisme répressif devient de plus en plus massif, avec la criminalisation de l'opposition, avec le bâillonnement des médias, avec la réislamisation de l'espace public et avec l'exaltation nationaliste matinée de nostalgie d'empire, mais ils ne suffisent pas pour perdurer le pouvoir. Ils ne suffisent pas pour perdurer le pouvoir parce qu'il y a le besoin d'une sanction ultime par les unes qui reste incontrôlable au jour d'aujourd'hui encore en Turquie. Donc, l'erdoganisme est un populisme qui sépare la société entre nous et le peuple. Nous, le peuple, et c'est nous, le peuple, avec Tayyip Erdogan qui est son matérialisation, incarnation personnelle, qui est une entité morale, pure et unie. Et en face, il y a les « eux », on lâche, c'est un terme qu'utilise énormément Tayyip Erdogan, eux, Eux, ce sont les élites corrompues et méprisantes. C'est un groupe étranger à sa propre culture et à la nation. Ce sont des thèmes qu'on retrouve à peu près dans tous les mouvements populistes réactionnaires à travers le monde. De ce point de vue-là, l'erdoganisme n'a aucune particularité du point de vue de cette séparation entre eux et nous sur la base culturelle, élitiste, etc. Erdogan se positionne toujours comme l'incarnation de la volonté nationale et comme seule personne à même de discerner le bien commun. Et il travaille toujours, dans les moments critiques, à alimenter, si ce n'est à aggraver, les trois fractures sociales historiques de la Turquie. Première fracture sociale de la Turquie, c'est la fracture entre les Turcs et les Kurdes. De ce point de vue-là, le problème kurde en Turquie est d'abord un problème des Turcs. C'est les Turcs qui ne savent pas où placer les Kurdes qui demandent une égalité citoyenne. Et le jour où les Turcs sauront exactement ce que veulent, auront une position claire là-dessus, peut-être on peut avancer, mais aujourd'hui, la majorité des Turcs veulent que les Kurdes deviennent purement et simplement Turcs. Ce qui est, je crois, impossible désormais, peut-être au XIXe siècle, mais plus aujourd'hui. Deuxième, et de ce point de vue-là, tant que le problème kurde existe, Tayyip Erdogan est du côté des Turcs en tant que Turc et il est capable de mobiliser les Turcs dans ce problème, dans cette dynamique. Deuxième clivage, c'est un clivage religieux sunnite-alévite. Tayyip Erdogan, pour les sunnites, les alévites, c'est l'autre le plus, dangereux, plus que les Grecs et les Juifs, parce qu'il n'y en a plus quasiment les Arméniens. Les alévites représentent l'autre, le plus proche et le plus à rejeter, d'une certaine manière. Et Tayyip Erdogan, de ce point de vue-là, alimente régulièrement cela parce que les alévis se retrouvent en grande partie dans le parti d'opposition CHP et ça facilite à Tayyip Erdogan de condamner la CHP à une image de parti alévite. Donc, du coup, même les sunnites qui sont contre Tayyip Erdogan ne voteront pas CHP. Ils voteront Iparti, Saadet, etc. parce qu'il y a cette image de parti alévite. Et ça, c'est une force de Tayyip Erdogan. Et troisièmement, entre conservateurs modernistes ou musulmans et laïcs, et là-dessus aussi, la majorité de la Turquie se considère comme conservateurs musulmans, et par conséquent, Tayyip Erdogan se place turc, sunnite, musulman conservateur, donc représente la majorité sociologique du pays. Évidemment, cette majorité sociologique s'effrite. La crise économique, et puis la malgestion du Tayyip Erdogan, parce que c'est une gestion extrêmement erratique que nous avons vue, mauvaise gestion de Tayyip Erdogan et de son équipe, où la loyauté a remplacé totalement dans les nominations sur les compétences, cette mauvaise gestion, évidemment, commence à peser, et aujourd'hui, Tayyip Erdogan perd un soutien populaire. Cette perte de soutien populaire va créer une politique de fuite en avant, une politique de fuite en avant dangereuse, mais cela permet à l'erdoganisme de neutraliser certains mécontentements par le nationalisme au niveau international et par l'islamisme au niveau national. Et le résultat, donc, c'est une association du nationalisme expansionniste entretenu par des ultranationalistes de droite ou des ultranationalistes laïcs et nombre de généraux en retraite, comme nous avons vu, ou de se range derrière ces positions nationalistes. Et en même temps, cela donne une dimension de chauvinisme religieux parce que l'islamisme en Turquie est d'abord un islamisme sunnite turc qui n'est pas du tout un islamisme universel, c'est un islamisme nationaliste, et depuis toujours, sans rupture. Et par conséquent, les deux réunis, ce nationalisme et cet islamisme, les deux réunis se manifestent dans un ressentiment contre l'Occident et dans un désir de revanche historique sur l'Occident, alors que la Turquie n'a pas été un pays colonisé, et plutôt un pays, je dirais, colonisateur, mais la Turquie se comporte aujourd'hui avec les mêmes ressentiments des pays colonisés par rapport à leur puissance coloniale. Je crois que j'ai à peu près épuisé mon temps. Je dirais cet mariage entre le nationalisme et l'islamisme aujourd'hui, cette alliance politique formée autour du Parti d'Union et Progrès, me rappelle un peu, mais la ressemblance doit être simplement en termes anecdotiques, on ne peut pas approfondir plus, mais il faut quand même réfléchir là-dessus. Ça me rappelle un peu les mêmes alliances qui ont été au pouvoir à la fin de l'Empire ottoman, à la veille de la Première Guerre mondiale. L'Union et Progrès. On connaît les conséquences. L'entrée en guerre à côté de l'Allemagne pour reconquérir les territoires perdus lors des guerres balkaniques, le génocide des Arméniens, la défaite devant les Alliés et leur occupation et la fin de l'Empire. Erdogan évoque souvent, aujourd'hui, de la perte des territoires de la Turquie de 2,2 millions de kilomètres carrés à 780 000 kilomètres carrés lors de la signature du traité de Lausanne en 1923, mais il oublie de rappeler que la responsabilité incombe d'abord au premier chef à l'idéologie islamo-nationaliste de l'Union et Progrès et son aventurisme politique qui a permis aux puissances européennes d'ouvrir la guerre contre la Turquie. Aujourd'hui, la nouvelle alliance islamo-nationaliste n'est pas très loin, mutatis mutandis, de cet état d'esprit unioniste d'antan, avec évidemment des conditions internationales qui ne sont pas les mêmes. Alors, est-ce qu'il y a des fragilités du régime ? Oui, il y a des fragilités du régime. C'est d'abord l'obligation de gagner les élections. Nous avons vu que ces régimes, les nouveaux autoritarismes, ne peuvent pas passer d'une légitimité électorale. Et nous avons vu que les résultats des élections municipales de 2019, c'est que le parti peut perdre les élections. Alors, est-ce que Tayyip Erdogan acceptera de faire les élections qu'il sait qu'il va perdre ? C'est la grande question que nous avons. Mais pour terminer, je dirais, si vous avez 2 minutes encore, je peux disposer. Depuis la proclamation de la République en 1923, donc la Turquie a connu une longue séquence d'autoritarisme moderniste élitiste, avec quelques périodes d'avancée vers la démocratie qui ont été interrompues par la violence, massacres, pogroms, coups d'État, répression massive, etc. Après la période de normalisation démocratique qui avait commencé un tant soit peu au début des années 2000, notamment dans la perspective d'adhésion à l'Union européenne, la Turquie connaît désormais, depuis une dizaine d'années, depuis 10 ans à peu près, une nouvelle séquence d'autoritarisme qui se manifeste sous la forme d'un populisme islamo-nationaliste qui se manifeste aussi sous forme d'un régime autocratique. Celui-ci puise son énergie d'une soif de vengeance contre les promoteurs historiques du projet d'occidentalisation et dans un ressentiment envers l'Occident qui, après avoir ouvert la porte, lui a fermé au nez de l'Union européenne. La superposition de ces deux sentiments sont antinomiques. À la fois, on veut se venger sur les occidentaux chrétiens, mais en même temps, on a un ressentiment parce qu'on a fermé la porte au nez d'une adhésion au club des chrétiens qu'on appelle les chrétiens. Mais cette superposition de ces deux sentiments antinomiques alimente au sein de la société une agressivité que le pouvoir renforce en exacerbant la guerre culturelle et les pratiques répressives de l'État sécuritaire. La Turquie connaît depuis un siècle une guerre culturelle entre les modernistes et les conservateurs, et Tayyip Erdogan travaille particulièrement sur la continuation de cette guerre culturelle. Le conflit kurde, qui perdure depuis 4 décennies, et depuis 2016, la volonté d'éradication des membres et des sympathisants présumés de la confrérie Gulen servent à justifier aujourd'hui, sous couvert de lutte contre la terreur, la politique de criminalisation des opposants et de toute défiance publique exprimée contre l'autocrate élu. La Turquie d'Erdogan donne aujourd'hui l'impression de naviguer à vue, mal gérée, au gré des rapports de force, sans un réel port d'attache à l'horizon. Donc, en termes de prévisibilité, nous ne savons pas, nous ne sommes incapables d'avoir une prévision sur les 5 années à venir de la Turquie, y compris dans ses relations avec l'OTAN ou la Russie. Tout ceci est terriblement fluctuant au gré des rapports de force, au gré des humeurs, quasiment, je dirais, de l'autocrate. Donc, sans un réel port d'attache à l'horizon. Et nous avons donc un régime qui, entre chronique capitalisme, le capitalisme de copains, si vous voulez, essoufflé, arrogance aux accents néo-impériaux, relations turbulentes avec les alliés occidentaux et des rapports très fragiles d'alliance et de rivalité avec la Russie, à quoi s'ajoute la militarisation de l'État sécuritaire, les effets de récession de la pandémie, ainsi que de la dégradation brutale de la plupart des indicateurs économiques que nous avons vus avec Seyfettin Gürsel. L'erdoganisme craint de plus en plus l'avenir et se raidit de plus en plus. La résilience de la société civile pourrait-elle venir à bout de ce régime autocratique, nous espérons tous, je crois, mais il faudrait pour cela que les oppositions à Erdogan réussissent à surmonter leur inimité ethnique et culturelle. C'est aussi la force de Tayyip Erdogan de pouvoir diviser l'opposition sur les 3 fractures sociales que j'ai indiquées tout à l'heure. Qu'elles se libèrent de leur démon historique, l'opposition, les oppositions, et se rassemblent dans une sérénité retrouvée pour la paix et la démocratie. Il y a quelques tentatives aujourd'hui. Les 6 partis d'opposition se sont entendus pour que, s'ils gagnaient les élections, ils reviendraient à un régime de parlementarisme renforcé. Mais, en même temps, cette alliance est une alliance exclusivement contre Tayyip Erdogan en personne et non pas pour une Turquie différente, puisque là-dessus, l'entente est pour le moment quasiment impossible. Cette perspective de gagner les élections est possible, difficile, bien difficile à réaliser pour le moment, sauf si, faisant feu de tout bois, pour se maintenir au pouvoir, l'erdoganisme en venait à plonger la Turquie dans une aventure catastrophique, en instaurant une dictature ouverte, de supprimant tous les contrepoids et surtout se libérer de la contrainte de gagner les élections. Ce jour-là, si Tayyip Erdogan décide de passer le Rubicon d'une dictature ouverte, évidemment, la Turquie sera dans une configuration totalement différente que personne ne peut prévoir l'issue. Je vous remercie.